Bonjour! Bonjour les gens, bonjour tout le monde, bonjour, comment ça va? Ça c'est bon, et ça c'est bon, ça c'est bon. Bonjour, bonjour, bonjour! Ça roule? Content de vous retrouver. Bienvenue en ce lundi. Hey Jean, en veille de l'élection américaine, t'aurais pu faire un backseat spécial élection américaine, déçu de ta part. Ah, je suis très décevant. C'est vrai que ça aurait été bien un backseat spécial élection américaine. Genre un backseat qui va jusqu'au bout de la nuit, là, pour suivre les résultats. Ça aurait été bien, ça aurait été bien. Je suis désolé. Et aussi déçu que tu parles pas de cancer. Ah ouais, putain, la même semaine, tu veux que je fasse une autre émission qui parle de cancer, avec des chercheurs et tout. Ouais, mec, je veux bien être décevant, mais la barre, vous la mettez haut, quand même, hein. À me dire. Coucou de la forêt. Ah bah salut. T'as acheté les cafés pour demain? Ouais, c'est bon, on a du café, on a du café, on a des hot dogs. Je sais pas si on a vraiment des hot dogs ou si c'est une blague. Après, tu peux parler de tous les signes astrologiques, pas que le cancer. Non, cette blague est nulle. Non, mais si, elle est drôle. Mais je la ferai pas mercredi. Je me permettrai pas de faire une blague un peu douteuse sur le cancer devant des chercheurs. Jean, je viens demain. Je suis mieux de ramener la bouffe ou c'est géré sur place? C'est géré sur place. Il y aura à bouffer sur place. Il y aura un food truck qui vendra à bouffer. Mais je sais pas ce qu'il vendra à bouffer. Si tu préfères venir avec ta bouffe à toi parce que tu as des restrictions alimentaires, quelles qu'elles soient, n'hésite pas, c'est open, tu as le droit. Voilà, t'inquiète, on va pas t'empêcher. Hein. Vu qu'il y a backseat, il n'y a pas de QAG du coup. Non, il n'y a pas de QAG. Il n'y aura pas les questions au gouvernement demain après-midi. Il n'y aura pas non plus les questions au gouvernement mercredi. Cette semaine est une émission spéciale. Est une édition spéciale, pardon. Avec. Il est où mon Photoshop? Pas de backseat jeudi. Non, 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 il n'y aura pas de backseat jeudi, vous déconnez ou quoi? On vous fait un backseat spécial qui dure 8 heures. On va pas en rajouter un jeudi. Voilà, regardez. La proc de la semaine. Ah merde, attendez. Voilà. Il faut que je vire aussi ce truc-là. Voilà. La proc de la semaine. J'espère que vous êtes contents. Hein. Hop. Aujourd'hui, revue d'actu, tranquille, on a des articles à lire parce qu'il se passe des dingueries. Demain, nuit américaine de 21h à 4h du mat. Mercredi, émission Checkpoint spéciale sur la recherche contre le cancer en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale. Jeudi, il n'y a pas backseat, donc je fais une FAQ politique tranquille à 15h. Et vendredi, on verra, ça dépend s'il me reste de l'énergie. Voilà, vous avez tout noté dans votre agenda, c'est bon, vous avez les horaires? 21h demain, 16h mercredi, 15h jeudi. C'est bon, c'est dans le Google Agenda? Ça part. Ça part en prod, formidable. Et je sais pas c'est à quelle heure, bah ça dépendra. J'en sais rien. Non, il y a aussi, attendez, sur Amstramgram, on a. On a la prog de la nuit américaine. Attention, préparez-vous, il va y avoir du name dropping. Toutes les personnes que vous retrouverez en plateau, il y aura Swann Périssé, l'humoriste, il y aura Mathieu Gallard, le directeur d'études chez Ipsos et enseignant à Sciences Po, Julien Volpré, qui est entrepreneur, ancien conseiller opinion de Nicolas Sarkozy, qui sera avec nous sur le plateau. On aura David Collomb, historien, enseignant-chercheur à Sciences Po. On aura également Elsa Vidal, qui est la rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. On aura également ASMR Politics, créateur de contenu sur Internet. J'espère que vous le connaissez, ASMR Politics. Il sera avec nous sur le plateau. Très content qu'il ait accepté de venir. Antoine Vidkin, journaliste et documentariste. On aura également Mathieu Persan, graphiste et illustrateur pour Le 1, qui est notre partenaire, ainsi que pour America, le journal. On aura Philippe Collin. Philippe Collin, auteur, scénariste, producteur, France Inter, Futuropolis et Arte. Philippe Collin sera avec nous sur le plateau de Backseat pour cette nuit américaine. On aura également Sébastien Marx, l'humoriste. Et attendez, c'est pas fini, ça c'était qu'une partie. Ensuite, on aura Mama Paprika, créatrice de contenu qui fera un jeu sur le plateau avec GeoGuessr, vous allez voir. On aura Leslie Couteran, activiste et documentariste. On aura Ludivine Gili, ou Gili, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Elle est historienne, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord et de l'Institut Jean Jaurès. On aura également Julien Bisson, rédacteur en chef du journal Le 1 Hebdo, qui est notre partenaire avec l'Institut Jean Jaurès. On aura Vincent Manilève, l'excellentissime journaliste et chroniqueur de Backseat, correspondant aux États-Unis. Il sera sur place depuis les States. On aura Alexis Buisson, journaliste correspondant aux États-Unis, il sera sur place. On aura Amélie Ferré, docteur en sciences politiques, responsable du laboratoire de la défense de l'IFRI, qui sera avec nous. On aura Marie Terrier, journaliste du HuffPost, correspondante aux États-Unis, qui sera sur place. Robin Legrand, journaliste politique à l'AFP, correspondant aux États-Unis, qui sera sur place. On aura Lumire Laprès, activiste, consultante, autrice, correspondante aux États-Unis, qui sera sur place. Vous vous rendez compte un peu le plateau qu'on vous a prévu, les enfants ? Et en plus de ça, vous retrouverez Adèle Barbeur, Sacha Beckerman, Léa Chamboncel, Malek Délégué, Jean Massier. Eh, on ne soupe pas de votre gueule. Hein. Jules ne sera pas là, non. Tout ça. Ben ouais, tout ça. Est-ce qu'il y aura Jean Massier, le gars avec le bouquin du moment ? Tu veux parler de Les Jeunes, c'est le présent aux éditions Payot ? Ouais, je crois qu'il sera sur le plateau, ouais. N'hésitez pas à acheter son livre, il est vachement bien. Faut le lire aussi, hein. Voilà. Est-ce que c'est légal de regarder l'émission bourrée ? C'est parfaitement légal de regarder l'émission bourrée. Je vous rappelle que vous avez l'obligation de rester jusqu'à 4h du matin. Hein. Ça, on l'a dit, hein, ça c'est la règle. Hein. Attention, hein. Je compte sur vous. Hein. Vous regardez Backseat jusqu'à 4h du mat'. On sera, en plus de ça, en direct du Théâtre de la Concorde. Qui sera plein à craquer. Il sera plein à craquer. On a, toutes les places sont parties. 1200 personnes. Voilà. Ça va être bien. En vrai, venez. Hein. En vrai, regardez le stream. On vous a prévu. On a fait la réunion de rédac ce matin. On vous a prévu un déroulé aux petits oignons. On va parler des États-Unis en long, en large, en travers. On va parler de l'élection américaine, évidemment. On va parler de Trump. On va parler de Kamala Harris. On va parler de l'IVG. On va parler des questions LGBTQIA+. On va parler des affaires étrangères, évidemment. L'Ukraine, le Proche-Orient également. Merci Hugo pour ton raid. On va parler du mode de scrutin un peu particulier de la présidentielle américaine. On va parler des swing states. On va suivre en direct l'évolution des grands électeurs. Qui sera le prochain président américain ? On va suivre tout ça. Ça va être le feu. On va parler d'Elon Musk, bien sûr qu'on va parler d'Elon Musk, évidemment. On va parler du gender gap. On va parler de... On va vraiment vous proposer une couverture complète de cette élection américaine, l'élection de tous les risques, avec des enjeux structurants pour les États-Unis, mais aussi pour la démocratie partout dans le monde, et pour les affaires étrangères et pour des dossiers brûlants. Hein. On parle du Proche-Orient, on parle de l'Ukraine. On parle de Taïwan aussi, on parle de la guerre commerciale avec la Chine, on parle de... Ouais. Non, franchement, on vous respecte. Hein. On vous respecte franchement. Est-ce que vous savez vers quelle heure on aura les résultats fiables ? Alors, il faut bien comprendre que, bon, on vous l'expliquera demain, mais le mode de scrutin américain fait que il faut compter les voix dans chacun des États pour déterminer si l'État tourne au bleu ou au rouge et donc envoie ses grands électeurs pour aller voter pour le président, pour le candidat républicain ou démocrate. On ne peut pas savoir à quelle heure on aura les résultats parce que ça dépend de la participation, ça dépend du temps de dépouillement et ça dépend des hypothétiques aussi contestations. Et on se doute qu'il va y en avoir. Il est donc fort probable que nous n'ayons pas l'identité du président américain à 4h du matin. Il est même probable qu'on n'ait pas les résultats de l'élection avant plusieurs jours. Nous, on fait ce qu'on peut, on va jusqu'à 4h. On a regardé les années précédentes, même quand c'était serré, on avait les résultats entre 2h30 et 3h30 du matin. Donc normalement, on a les résultats de l'élection américaine à 3h30 du matin. Normalement, je veux dire habituellement plutôt. Il n'y a pas de normes, il y a juste une habitude et un usage, et a priori c'est comme ça qu'on l'a. Là, on se doute bien qu'il est possible que ça coince, et que surtout dans certains swing states, les états les plus regardés évidemment, il y ait du temps et des délais. on fait un stream marathon jusqu'au résultat. Pour des raisons évidentes de droit du travail, on ne peut pas se permettre de faire un stream jusqu'au résultat. Il faut bien laisser les techniciens dormir au bout d'un moment, donc on ira jusqu'à 4h du matin, on peut tirer un peu jusqu'à 4h15 si vraiment on attend une dinguerie, un truc comme ça, mais on va pas s'amuser à tirer jusqu'à 6, 7, 8, 9h du matin. Ça, on va pas faire ça. Mais il y a de fortes chances qu'on ait quand même les résultats ou au moins les grandes tendances. J'étais complètement désintéressé par la politique et à cause ou grâce à toi, plutôt, je commence mon master en politique. Oh, trop bien! Ça fait plaisir! Eh ben, bon courage à toi pour tes études de sciences politiques. Les Trumpistes risquent de faire des dingueries s'ils voient que ça va pas en leur faveur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, on verra ça demain. Après, pareil, on en a parlé ce matin en réunion de rédac. On n'est pas une chaîne d'infos en continu. Donc je vous le dis tout de suite, Backseat n'a pas vocation à vous faire suivre minute par minute les dingueries sur place avec des images, etc. Nous, on n'a pas des équipes avec des camions satellites partout sur le territoire américain pour vous faire un décrochage, machin. Donc on reste à notre place, on fait Backseat, on sait faire Backseat, on suit en direct les résultats. Mais s'il se passe des dingueries, on va pas pouvoir les couvrir avec des images et tout. Il y a des chaînes de télé qui savent faire ça. Nous, on sait pas faire ça. On n'a pas le budget, nous. T'as pas un hélicoptère backseat avec Vincent pour suivre Donald Trump? J'adorerais. On met Vincent Manilev dans un hélicoptère backseat et on lui fait survoler comme ça la Pennsylvanie. De toute façon, toutes les dingueries se passeront en plateau, donc pas besoin. Let's go. Ce sera la plus belle dinguerie de cette soirée, ce sera le plateau de Backseat en direct du Théâtre de la Concorde. Et je suis très content qu'on vous propose ça avec Equal Production, mon coproducteur, sur lequel ils ont beaucoup bossé. Et ils continuent à bosser, hein. Là, d'ici à demain, on a quand même pas mal de taf. La Pennsylvanie avec les vampires et tout. Ouais, exactement. Exactement. Est-ce que tu penses que le NFP a sa chance aux élections américaines? Ouais, le NFP a sa chance. Ils vont revendiquer la victoire. C'est pas trop dur de trouver des intervenants parce que j'imagine que tous les experts américains sont pris sur les plateaux de télé ce soir-là. Oui. Oui, oui, si, c'est difficile de trouver des intervenants, mais c'est un métier. Hein. C'est un métier. Et puis, il y a des intervenants qui sont contents de venir sur Backseat. Hein. Il y a des intervenants, quand on leur propose d'aller sur telle chaîne télé ou sur Backseat, ils préfèrent venir sur Backseat. Ils disent ah non, je préfère Backseat, vas-y, ça me fait super plaisir et tout. Il y a la plupart des intervenants qu'on a contactés étaient super contents qu'on les invite. Ils connaissent Backseat et tout, ils sont honorés pour certains d'entre eux de venir dans cette émission, donc c'est cool. Puis en fait, ils préfèrent vous parler à vous, en fait, c'est parce que c'est aussi pour vous hein, qu'ils viennent. Ils préfèrent parler au public de Backseat que de parler à des téléspectateurs sur certaines chaînes télé. Donc voilà. Quid des chroniqueurs Backseat? Qui des chroniqueurs de Backseat a le meilleur niveau en anglais? Adèle et Léa, elles ont vécu aux États-Unis. Alors forcément, voilà, je peux pas compétiter. Hein. Quoi qu'il en soit, il fallait que je vous parle d'un autre truc. Attention, il s'est passé quelque chose d'important. Est-ce que vous vous souvenez, genre il y a 2 semaines, un truc comme ça, d'un stream pendant lequel on a discuté des Tamagotchi? Vous vous souvenez ou pas? On a eu une longue discussion, probablement un peu trop longue. On a parlé des... On a parlé des Tamagotchi, on a rappelé nos souvenirs d'enfance, des Tamagotchi, machin, c'est incroyable, les Tamagotchi et tout. Et y en a dans le chat qui m'ont dit, ah, mais tu sais que ça existe des Tamagotchi en 3D. J'ai fait quoi? Non, mais vous déconnez ou quoi? C'est quoi cette blague? Et en fait, si, ça existe les Tamagotchi en 3D. On a même regardé ensemble une vidéo qui montre, qui présente ces Tamagotchi en 3D.
Découvre Bitsy, ton animal interactif que tu peux vraiment toucher. Commence par sortir ton boîtier Bitsy de sa boîte pour jouer et collectionner les 15 personnages qui sont à l'intérieur. Tout d'abord, demande à un adulte de t'aider et prends une paire de ciseaux. Ensuite, tire sur la languette et c'est moi et coupe-la.
Bon, on va pas regarder toute la vidéo, parce qu'en plus, la vidéo déballage, elle est horriblement longue.
Le meilleur moyen est de placer un doigt au-dessus de l'écran, comme ça, et de caresser la tête du Bitsy vers le bas. Ah.
Ne le fais pas. Donc voilà, non, parce que c'est une chaîne importante. Vous savez, c'est une chaîne qui parle de politique ici, hein, on parle de sujets importants. Donc on a parlé de ça pendant une heure, à peu près. dans un grand moment de streaming politique, finalement. On a parlé de Bitsy, de ces petits Tamagotchi en 3D que tu peux caresser. Et il se trouve que la semaine dernière, à Backseat, il y a une abonnée qui est venue dans le public, que je ne remercierai jamais suffisamment, parce qu'elle m'a offert... Elle m'a offert mon Bitsy. J'ai mon Bitsy à moi, rien qu'à moi. Elle est venue me voir avec un petit sac, elle m'a fait, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Je lui fais, oh, mais c'est super gentil, merci et tout. Elle me tend le sac, je regarde dans le sac, je fais, oh non, tu déconnes. Non, 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 tu déconnes, c'est pas vrai. Elle dit, si, si, carrément. C'est quand elle m'a offert un Bitsy. Ah. Donc voilà, donc j'ai l'immense plaisir de vous présenter... Mon Bitsy. Est-ce que vous entendez le bruit? Voilà. Donc en fait, la techno, c'est une petite languette à la con, avec des LED au bout. Regardez, si je l'arrête... Voilà, vous voyez, c'est juste une ligne de LED. Et ça fait un bruit infernal. Ah, il ronfle. Et je peux le caresser. Attendez, faut que je lui donne à manger aussi. Ah non, c'est par là. Voilà. Après, je peux aussi le faire s'endormir si je le berce. Donc là, il s'endort. C'est très important. Attention, hein, concentrez-vous. Hein. Voilà, ça c'est pour jouer avec. Tu fais comme ça. Ah, ça c'est un autre Bitsy qui m'écrit pour me dire qu'il a des besoins. Alors du coup, on va aller le voir. Ah, il a fait caca. Putain, 10 ans de présence sur Twitch pour vous proposer ce contenu. Hein. Comment on va voir? Attends, comment on va voir l'autre? Ah, regardez, il évolue. On va s'arrêter là. Vous en avez beaucoup trop vu. C'est extrêmement pénible, le bruit du machin. Et voilà. Et en fait, mais en fait, c'est assez complet cette merde, parce que tu peux avoir jusqu'à 15 Bitsy différents. Ils peuvent tous évoluer en 3 évolutions possibles. Et à la fin, quand t'as les Bitsy maximum, là, ça débloque des jeux. Tu peux jouer avec. Il y a des mini-jeux. Il y a un espèce de Flappy Bird, il y a un espèce de Tetris et tout machin. La cam Bitsy. Quand j'irai aux toilettes, je vous laisserai avec le Bitsy. On veut un Bitsy Jean-Luc. Alors, s'il existe des pirates informatiques dans ma communauté qui sont prêts à m'aider à pirater ce truc pour mettre un petit Jean-Luc Mélenchon à la place, je suis chaud. Alors, faut vraiment quelqu'un qui a du temps à perdre. On est sur un niveau de compétence en développement informatique. Je sais même pas comment ça marche. T'inquiète, on a que ça du temps à perdre. Voilà, c'est ça. Donc je suis très content. Donc encore une fois, un merci infini à cet abonné qui m'a offert ça au dernier Backseat. Ça m'émeut, comme Jaja. Vous savez que les gens qui m'offrent des cadeaux absolument incroyables. Hein. Il y a quand même quelqu'un dans ma communauté qui m'a offert une cigarette électronique l'année dernière parce que je voulais arrêter de fumer et que j'avais pas de cigarette électronique. Il y a quelqu'un qui m'a offert une escouade Warhammer que vous voyez mal là devant les panneaux The Event. C'est une escouade Warhammer aux couleurs de Backseat. Et c'est pas une blague, c'est littéralement les couleurs de Backseat qui ont été peintes sur les Warhammer. J'ai un Pizzi. On m'a offert une BD dans laquelle j'apparais. Enfin bref. Meilleure communauté ever. Le chat, oui, c'est vrai, le chat. Le chat en Lego. Le chat en Lego m'a été offert par Perceval, qui est modérateur sur la chaîne. Oui, t'as raison, un chat en Lego, j'ai oublié, mais oui, bien sûr, un chat en Lego. Donc voilà, moi je veux rien savoir, j'ai la meilleure communauté Twitch, de tout Twitch, tout confondu. J'ai les plus beaux cadeaux. On t'offre des costumes à plusieurs milliers d'euros aussi. Moi, je stream en t-shirt, tu sais. Il te manque pas 1 million d'euros par tous les hasards. Si, il manque un peu d'argent. Mais abonnez-vous, ça ira, ça me sera très bien. Bientôt un TBM 900, exactement. Est-ce qu'il faut être abonné pour suivre l'émission de demain soir ? Absolument pas, Camille. Bienvenue sur le chat. Camille, toutes mes émissions sont gratuites. Voilà. Donc demain soir sur Twitch, de 21h à 4h du matin, et je te rappelle que t'as pas le droit d'aller dormir, tu pourras regarder l'émission Backseat. Et ce n'est pas réservé aux abonnés. J'ai vu qu'il y avait l'élection américaine demain, ce serait cool de proposer un stream pour l'occasion. la barbe, bon d'accord, on va en parler de la barbe. Oui, je me laisse pousser la barbe. On est sur un poussing de barbe. C'est plus ou moins mon objectif de l'hiver que de réussir. Mais là, il faut que je la taille parce que ça ressemble à rien. Mais j'ai envie de me laisser pousser la beubare. Mon objectif.
Coco.
Mon objectif de masculinité, c'est Bolchevik, qui fait notamment les émissions populaires sur la chaîne de Luma. Voilà. Moi, je veux la barbe de Bolchevik. Parce que c'est mon projet. Est-ce que t'as déjà pensé à faire une émission sur un sujet de santé avec des experts et tout ? Oui, effectivement, tu as raison. Mercredi, mesdames et messieurs, notez-le dans votre agenda. Mercredi, le lendemain de la soirée américaine. Mercredi à 16h, émission spéciale en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale. On va parler de la recherche contre le cancer. On va faire le point avec des chercheurs et des praticiens, des cliniciens, qui seront sur le plateau avec moi. Pour venir parler de la recherche contre le cancer. Soyez là, mercredi 16h, ça va être passionnant comme discussion avec des gens absolument incroyables. C'est une émission Checkpoint qui est faite en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Ça fait deux émissions exceptionnelles coup sur coup quand même. Hein. Pas mal, beau programme. Tu vas être éclaté, non ? Alors non, parce que l'émission de demain, l'émission Backseat spéciale nuit américaine, moi je ne présente que la première moitié de l'émission. En gros, à minuit, j'arrête de présenter l'émission et c'est Adèle qui prend ma place pour présenter la deuxième partie d'émission jusqu'à 4h du matin. Ce qui va, moi, me permettre d'aller me coucher pour me préparer pour l'émission... pour l'émission du lendemain 16h. Je peux pas présenter Backseat pendant 7h d'affilée. Hein. C'est pas possible. Tu vas dormir ? Oui, moi je vais dormir. Mais moi je vais dormir parce que j'ai une excuse. Parce que je vous prépare une émission le lendemain. Vous, vous avez pas le droit. Vous avez pas d'excuse pour aller dormir. Donc vous, vous restez jusqu'à 4h. Moi je vais dodo. Et comme ça, je suis OP le lendemain pour vous présenter une émission sur le cancer. D'ailleurs, vous n'avez pas non plus le droit de dormir entre 4h et 16h. Non, je déconne. Vous êtes obligé de faire du blanche. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, bah, je suis un homme politique comme un autre, finalement. Ça va. Tout est bon. On te fait un récap. Ouais, faites-moi un récap, ouais. Faites-moi un récap. Alors, attendez. Hop. On va parler un petit peu d'actualité politique. Actualité politique depuis ce week-end, quels sont les sujets qui sont le plus montés ? On a vu les intempéries en Espagne qui ont fait de très nombreux morts et qui relancent le débat sur l'urbanisme et la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a les élections américaines, évidemment, demain, hein, qui excitent beaucoup de monde. Mais il y a la suite du marathon législatif à l'Assemblée nationale, notamment sur le budget. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet d'actu en ce lundi ? L'adaptation, tu veux dire ? Oui, l'adaptation au changement climatique, oui. L'échec de la COP16 sur la biodiversité, effectivement, les États... partie prenante des négociations n'ont pas abouti à un accord sur la protection de la biodiversité. Ensuite, la niche communiste, les soins du cancer du sein sont pris en charge à 100%. Il n'y a pas de niche communiste. Il y a eu une niche Rassemblement National. Et dans un mois, il y aura la niche LFI. As-tu parlé de l'agression à la hache dans la gare de RER ? Non, j'en ai pas parlé encore. Mais oui, ça c'est un autre sujet d'actu. C'est quoi les niches ? Les niches parlementaires, c'est le petit nom qu'on donne à certains jours dans l'année qui sont réservés à des groupes minoritaires pour leur permettre de défendre leur proposition de loi. Donc chaque groupe a une fois par an une niche au cours de laquelle, c'est une journée seulement, au cours de laquelle il peut faire adopter des lois. Enfin, en tout cas, il peut les défendre. Après, il y a discussion, amendement, etc. Les résultats du foot. Non. Donc à propos de niche, je vous disais que la semaine dernière, le Rassemblement National avait voulu... Bah, de toute façon, vous avez tous regardé Backseat, donc vous savez de quoi il s'agit, puisque le RN a voulu défendre une abrogation de la réforme des retraites qui a été recalée par la présidente de l'Assemblée nationale avant même d'être discutée au titre de l'article 40 de la Constitution qui interdit au groupe de proposer d'augmenter des charges publiques ou de diminuer des recettes. On va lire un article du Monde qui revient un petit peu sur l'imbroglio qu'il y a autour de ça, parce que ça fout un peu le bordel. Je vous rappelle que l'abrogation de la réforme des retraites est souhaitée par le RN et par la gauche, mais qu'ils se font des guéguerres parce qu'ils ne veulent pas voter l'un pour l'autre. On va voir ça. Les députés de gauche et d'extrême droite s'affrontent alors qu'ils partagent l'objectif d'un retour à l'âge de départ à 62 ans. Pour la troisième fois en moins d'une semaine... Le débat sur l'abrogation de la réforme des retraites est relancé en séance publique à l'Assemblée nationale. Lundi 4 novembre, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, les députés devaient passer en revue plusieurs amendements, soutenus par la gauche et par le centre, qui s'inscrivent dans la volonté de supprimer le report de 62 à 64 ans de l'âge légal, de l'âge d'ouverture des droits à une pension, qu'on appelle aussi l'âge légal de départ en retraite. Les initiatives allant dans ce sens se multiplient tout en restant infructueuses pour le moment, alors qu'une nette majorité d'élus siégeant au Palais Bourbon aimerait tirer un trait sur les règles promulguées à la mi-avril 2023. Une bataille difficile à suivre, synonyme parfois de mêlée confuse, d'autant plus qu'elle voit s'affronter des forces politiques poursuivant le même objectif. On va essayer de tirer tout ça au clair parce que je suis assez d'accord avec cette introduction d'article. C'est un peu le dawa, on a du mal à comprendre pourquoi l'abrogation de la réforme des retraites n'est pas votée alors que visiblement il y a une majorité de députés qui la souhaitent. Si les discussions ne tournent pas à la course de lenteur, les députés devaient se pencher lundi sur des amendements quasi identiques rédigés par les quatre composantes du nouveau Front populaire. Ils ont pour objectif de réécrire un rapport figurant en annexe du PLFSS en y introduisant l'idée que le décalage de l'âge légal de départ à la retraite est abrogé, tout comme l'augmentation de la durée de cotisation requise pour une pension à taux plein pour certaines générations, un autre mécanisme instauré par la loi du 14 avril 2023, la fameuse réforme des retraites. Les amendements en question ajoutent que la trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. Ok. Donc les groupes du Nouveau Front Populaire ont déposé des amendements dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est actuellement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, de manière à y inscrire un principe d'abrogation de la réforme des retraites. Bon, seulement, visiblement, c'est des amendements qui proposent d'amender un rapport. Il doit y avoir un mécanisme qui permet de toucher un rapport pour en faire un truc générateur d'effets de droit, mais ça me paraît bizarre. Mais pourquoi pas ? En même temps, de toute façon, les députés du NFP, comme tous les députés, ils se mettent dans tous les interstices qu'ils peuvent pour essayer de parvenir à leur fin. Ils en ont bien le droit. La démarche se situe sur le plan des principes, confie Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Éric Coquerel, il n'est pas que député de la Seine-Saint-Denis. Éric Coquerel, il est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc la démarche, si elle était votée, la disposition portée par la gauche n'aurait en effet pas de pouvoir juridique contraignant, répondant ainsi aux interrogations du streamer Jean Massier. Notamment car elle se heurte à l'article 40 de la Constitution qui interdit les initiatives parlementaires ayant pour conséquence de créer ou d'accroître une charge publique, ce qui serait le cas en l'espèce, puisque la disparition de la règle des 64 ans entraînerait un surcoût de dépenses. Elle est là, la fameuse article 40. Ces amendements constituent donc une façon de continuer un combat politique engagé depuis plus d'un an et demi. Il s'agit d'entretenir un rapport de force pour montrer que nous ne passons pas par pertes et profits ce sujet, explique Jérôme Gage, député socialiste de l'Essonne. Si nous ne parvenons pas à nos fins sous cette législature ou d'ici à l'expiration du mandat d'Emmanuel Macron, la suppression de ces mesures d'âge sera au cœur de la prochaine campagne présidentielle en 2027. Je suis pas sûr de ça, mais admettons. Pour sa part, André Chassaigne, le président du groupe Gauche démocrate et républicaine, les communistes, y voit une première étape vers l'abrogation. Ok, donc les députés de gauche assument que c'est symbolique, mais ils espèrent quand même obtenir un vote en disant que c'est un premier pas qui irait en direction de l'abrogation. Désireux eux aussi de contribuer à cette lutte, 15 membres du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire ont co-signé des amendements qui se placent dans l'optique d'une abolition de la retraite à 64 ans. Parmi ces personnalités, il y a Stéphane Viry, député des Vosges. Je cite « Nous voulons avant tout nourrir la réflexion sur le financement de notre système par répartition, l'idée étant de trouver des ressources alternatives à celles qui sont fixées dans la réforme de l'année dernière », affirme-t-il. Son souhait est que toutes les parties prenantes s'installent autour d'une table pour en discuter. L'État, les parlementaires, les acteurs sociaux, les gestionnaires de caisses, les citoyens. En théorie, Ces dispositions auraient toutes les chances d'être avalisées, puisqu'une large majorité de députés veulent mettre un terme aux mesures d'âge de la loi du 14 avril 2023. Le Rassemblement national étant également sur cette ligne. Mais les élus d'extrême droite ne marchent pas main dans la main avec leurs collègues siégeant au centre et à gauche de l'hémicycle. Le 29 octobre, ils ont voté contre des amendements au PLFSS défendus par le NFP, qui cherchaient à dégager de nouvelles ressources pour les régimes de retraite. Le dispositif imaginé par la gauche ne permet pas d'abroger la réforme de 2023, a argué Thomas Ménager, représentant du RN dans le Loiret. C'est de l'esbrouf. Il ne fait qu'augmenter les cotisations, a-t-il dénoncé. Ah bon, d'accord. Bah, si en plus ils ne se mettent pas d'accord sur les mesures de financement, où est-ce qu'on va, les enfants? Je vous le demande. Sa diatribe met en exergue la compétition à laquelle se livrent le NFP et les députés de Marine Le Pen sur ce dossier. Le 31 octobre, les protagonistes ont, de nouveau, croisé le fer lors des débats sur une proposition de loi portée par M. Ménager, RN donc, et visant entre autres à rétablir la retraite à 62 ans. Cette fois-ci, la gauche a fait obstacle au texte, qui relève selon elle de l'arnaque sociale et du blabla. Sous-entendu, si l'extrême droite était sincère, elle aurait voté avec le NFP deux jours auparavant. C'est bien parce que l'extrême droite et la gauche, voilà, se renvoient le même argument. Et, bah, si vous vouliez vraiment l'abrogation de la réforme des retraites, vous auriez voté notre truc. Du coup, pour la peine, on va pas voter votre truc. Pour bien montrer que vous êtes de l'esbrouf. Ok. La tournure prise par les discussions montre qu'il y a un risque que les postures politiciennes prennent le dessus et que les attentes d'une majorité de la population soient déçues, s'inquiète M. Viry. C'est excessivement dangereux. La défiance à l'égard de la parole politique, qui est déjà grande, pourrait devenir plus vive dans les années à venir si nous ne réussissons pas à nous entendre sur les mesures à la fois plus justes et à même de garantir l'équilibre des régimes. M. Coquerel n'est pas du même avis. Si le ressentiment doit s'accroître au sein de la population, c'est surtout, d'après lui, à l'encontre du pouvoir en place, qui continue de camper sur ses positions, contraires à des aspirations majoritaires. Surtout, souligne-t-il, le vrai rendez-vous désormais aura lieu le 28 novembre, avec l'examen d'une proposition de loi conçue par son groupe, LFI, dont le but est de torpiller les mesures d'âge de la réforme de 2023. Le clap de fin sur ce feuilleton à tiroir n'est pas prêt de retenir. De retentir. En gros, Éric Coquerel dit si les oppositions n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est à cause du gouvernement. Pas à nous, Éric. Pas à nous. Mais si tu veux, oui. Bon, ok, on y voit déjà un petit peu plus clair. Enfin, on y voit plus clair. Non. Je veux dire, c'est le bordel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le Dawa, on comprend rien. Qui vote quoi et pourquoi? Tout le monde est d'accord, mais personne n'est d'accord. Il dit pas ça. Bah si, Éric Coquerel, il dit le ressentiment doit être à l'encontre du gouvernement. Mais le ressentiment, il peut aussi être à l'encontre des oppositions, hein. Le rejet du politique, c'est pas valable que pour ceux qui sont au pouvoir. Hein. On voit le bordel clairement. Non mais ouais, voilà, c'est ça. On voit que c'est le bordel. Le Rassemblement National a déposé une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites qui a été retoquée article 40 par la présidente de l'Assemblée Nationale. Je vous redis ce que je vous disais la semaine dernière. Je ne vois pas pourquoi la présidente de l'Assemblée Nationale ne retoquerait pas à nouveau la proposition de loi LFI, pour les mêmes raisons. Moi, je vois surtout que c'est toujours la même tambouille politicienne et ça n'avance pas. Ouais, absolument. Et au demeurant, il y a une situation de blocage institutionnel également. Hein. Je vous rappelle qu'on a un gouvernement minoritaire, on a des oppositions morcelées et qui refusent de faire alliance. Peut-on en vouloir à la gauche de ne pas vouloir faire alliance avec l'extrême droite? Peut-on en vouloir à l'extrême droite de ne pas vouloir faire alliance avec la gauche? La France est ingouvernable. Ouais. Cette phrase a été prononcée à peu près tous les ans depuis un siècle. Si on veut. J'ai jamais été vraiment convaincu. Ils ont utilisé l'article 40 avec quels arguments exactement? Bah avec les arguments prévus par l'article 40. L'article 40 de la Constitution interdit aux députés de proposer d'augmenter une dépense ou de réduire une recette. Le truc, c'est que, et c'est là où moi je vous mettais en garde la semaine dernière en disant attention, il y a un loup là-dedans, c'est que le problème de l'article 40, c'est que si on se met à en avoir une interprétation extensive, on empêche les oppositions de déposer des propositions de loi. Parce qu'au nom de l'article 40, on peut s'amuser à empêcher toute forme de proposition de loi. C'est trop facile. C'est pour ça qu'il y a historiquement à l'Assemblée nationale un deal qui consiste à ne pas utiliser l'article 40 contre les propositions de loi des minorités, des oppositions. Historiquement, quand la gauche est au pouvoir, elle laisse la droite proposer des lois qui sont contre l'article 40. En disant, de toute façon, vous êtes minoritaire, donc vous n'arriverez pas à la faire voter. Donc, de toutes les manières, on sait très bien que ça n'ira nulle part, mais on ne veut pas vous empêcher de le déposer et de le défendre, parce que sinon, quand nous, on sera dans l'opposition, vous allez nous empêcher, vous aussi, de défendre des trucs. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un deal, il y a un accord tacite, il y a une pratique, il y a un usage qui dit, bon, on ne s'empêche pas mutuellement de déposer des trucs. Le problème, c'est que ce deal dont je viens de vous parler, il a un sens dans le cadre d'une Ve République qui fonctionne de manière habituelle, c'est-à-dire avec une majorité et une opposition. L'opposition peut être plurielle, mais elle est du même côté de l'hémicycle, en gros, pour faire simple. Et puis par ailleurs, l'opposition, par définition, elle est minoritaire à l'Assemblée nationale. C'est le principe. Quand vous êtes majoritaire, vous n'êtes pas l'opposition, vous êtes le gouvernement. C'est le principe du fait majoritaire que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. L'opposition, elle est minoritaire, donc elle ne peut pas faire adopter de loi. Même les amendements de l'opposition, en principe, ils dégagent tous, pratiquement tous. Seulement aujourd'hui, comme vous le savez, puisque vous suivez l'excellente chaîne Twitch de Jean Massier, nous sommes dans une trajectoire politique parlementaire étrange, nouvelle. On n'est pas habitué à ça. On a un gouvernement minoritaire, d'une part, et d'autre part, on a des oppositions morcelées de part et d'autre de l'hémicycle. Un gouvernement minoritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement peut être mis en minorité lors d'un vote, si toutes les oppositions votent la même chose. C'est pour ça que Yael Braun-Pivet a utilisé l'article 40 sur la proposition de loi du RN. C'est parce qu'elle savait très bien qu'elle risquait d'être adoptée. Risque qui n'existe pas d'habitude, puisque l'opposition est minoritaire. Bah non, là, les oppositions, elles sont majoritaires. Article 40, mais le gouvernement a pu faire baisser des recettes pourtant. Attention, attention! L'article 40 ne vaut que pour les députés, pas pour le gouvernement. Le gouvernement a le droit, lui, de déposer des propositions de loi et d'amendements qui alourdissent des charges ou réduisent des recettes. Sinon, il ne pourrait rien faire du tout. Le Sénat n'est pas concerné par l'article 40? Si. Si, 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 si. Les sénateurs n'ont pas le droit de déposer des propositions de loi, article 40. C'est Yael Braun-Pivet qui utilise l'article 40. Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche, s'il te plaît? Bah, c'est assez simple. L'article 40, comme je viens de vous l'expliquer, est un article qui interdit aux députés de déposer des amendements ou des propositions de loi qui augmentent des impôts ou qui réduisent des recettes. Non, qui diminuent des ressources ou augmentent des charges. Bref. La recevabilité des amendements déposés par les députés doit être examinée au moment de leur dépôt. Quand vous êtes député, vous écrivez des amendements sur votre ordinateur, vous les envoyez sur le logiciel interne de l'Assemblée nationale qui traite les amendements, et votre amendement, il y a écrit en cours d'examen. Et qui est-ce qui examine la recevabilité article 40 des amendements ? C'est le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Mais c'est pas le seul. Il y a également le président de l'Assemblée nationale. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est Éric Coquerel. Éric Coquerel, lui, il est insoumis, donc il voit pas le problème à abroger la réforme des retraites. Au contraire, il le souhaite même. Et Yael Braun-Pivet, de son côté, elle dit « Non, non, moi je suis pas d'accord ». Là, c'était des amendements en séance publique. Les amendements en séance publique sont jugés recevables ou non par le président de l'Assemblée nationale, qui peut en déléguer le pouvoir au président de séance, je crois. Mais le principe, c'est que c'est le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi le président des finances a son mot à dire ? Parce qu'il est président de la commission des finances ? Et que c'est à lui que revient la charge de juger la recevabilité article 40 des amendements ? À ce compte-là, l'opposition ne peut plus rien proposer du coup. C'est le risque, je suis d'accord avec toi. C'est le risque qu'on se retrouve dans une situation où, sur la base de cette nouvelle jurisprudence créée par Yael Braun-Pivet, les groupes minoritaires peuvent plus déposer grand-chose en fait comme proposition de loi. Comment vous pouvez proposer une proposition de loi qui n'a aucun impact sur les finances publiques ? C'est ça le risque en fait d'avoir une lecture trop stricte de l'article 40. Et par ailleurs, le risque, c'est que s'il y a une alternance, Yael Braun-Pivet devienne victime de cette règle. Même si elle est financée, l'article 40 s'applique. Alors, il y a une possibilité pour contourner l'article 40, c'est ce qu'on appelle les gages. Donc, tu gages les dépenses nouvelles sur une taxe à la con. C'est histoire de dire. C'est pour ça que vous voyez souvent des propositions de loi où le gage, c'est les taxes sur le tabac. Genre, en gros, on augmente un peu les taxes sur le tabac et comme ça compense l'augmentation de dépenses qu'on a déposées. En marche puis ensemble a beaucoup créé de jurisprudence depuis que Macron est élu quand même. Oui, c'est normal, ils sont au pouvoir. C'est tout à fait normal. Et en plus de ça, ils sont au pouvoir dans un contexte parlementaire qui évolue et qui est inédit. Alors forcément, il y a des nouvelles jurisprudences à inventer. Un gage sur le tabac peut-il être refusé ? Non, mais en général, le gage sur le tabac, ça permet de justifier et de permettre la défense de l'amendement. Encore une fois, quand on parle d'amendement minoritaire, on s'en fout un peu, en fait. On se dit, de toute façon, c'est un amendement qui ne va pas être voté. Donc, le député fait semblant de gager son amendement. Le président de la commission des finances fait semblant qu'il n'y voit rien. Pour dire, vas-y, c'est bon, défends ton amendement. Tu peux défendre ton amendement. Vas-y, prends la parole, explique-le ton amendement. De toute façon, il va être dégagé. T'es minoritaire. J'arrive pas à comprendre comment on peut consciemment saper le fonctionnement de nos institutions. C'est ultra court-termiste. Non, attention, on n'est pas en train de saper le fonctionnement de quoi que ce soit. L'article 40, il existe depuis 1958. C'est pas nouveau, cette limitation du pouvoir d'amendement des députés. Est-ce que c'est court-termiste ? Sans doute, mais encore une fois, je vous rappelle qu'on vit dans un moment parlementaire nouveau. C'est-à-dire que c'est inédit, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Le fait qu'on ait un gouvernement minoritaire qui puisse être mis en minorité par l'adoption d'une proposition de loi, c'est nouveau. C'est rarissime qu'un groupe d'opposition réussisse à faire adopter une proposition de loi. C'est pour ça que d'un seul coup, l'article 40 devient hyper important. D'habitude, on le gage sur le tabac et puis tout le monde ferme les yeux. Bah oui, mais là, d'un seul coup, ça devient important. C'est pas censé arriver, exactement. C'est pas censé arriver. Donc, hop, j'ai un autre article à lire, rapide celui-ci, de Manuel Bompard, qui accuse la coalition gouvernementale de faire de l'obstruction parlementaire. Faut que je vous explique. Manuel Bompard, c'est lui, c'est un député insoumis, mais c'est surtout le coordinateur national du parti, la France Insoumise. Invité ce lundi matin sur le plateau de Public Sénat, le coordinateur du mouvement mélenchoniste a menacé de déposer une nouvelle motion de censure contre le gouvernement Barnier. Je souhaite qu'on aille au bout de l'examen budgétaire et je souhaite que les parlementaires puissent voter le budget. Après 7 années de présence à l'Assemblée nationale, la France Insoumise a-t-elle atteint l'âge de raison ? Invité ce lundi matin sur Public Sénat, le coordinateur du parti mélenchoniste Manuel Bompard a dénoncé l'hystérisation des débats autour de la laïcité et accusé la coalition gouvernementale d'obstruction parlementaire. Deux critiques très souvent adressées aux insoumis depuis la constitution du groupe parlementaire au Palais Bourbon. Oui, c'est vrai. Il y a un contre-Kems. Il y a un contre-Kems de la part de Manuel Bompard. Si vous regardez les choses en détail, vous verrez que la moitié de ces amendements ont été déposés par le bloc macroniste ou par la droite républicaine. Manuel Bompard, d'ailleurs c'est ce que disait, excusez-moi je fais une parenthèse, mais c'est ce que disait Charles de Courson sur le plateau de Baxit. Hein. Il disait la même chose. Il dénonçait le très grand nombre d'amendements sur le budget déposés par les députés de la majorité. Enfin, de la coalition gouvernementale. Manuel Bompard a vertement critiqué les groupes parlementaires du camp Macron, ainsi que de la droite républicaine, donc les Républicains. Au total, plus de 3650 amendements ont été déposés par les députés sur la partie recettes du projet de loi de finances, dont environ 45% par le socle commun, LR Macronie, selon les services de l'Assemblée. Un appel au sérieux dans l'hémicycle, alors que durant les débats autour de la réforme des retraites, les troupes de Jean-Luc Mélenchon avaient déposé pas moins de 13 000 amendements pour empêcher le vote du texte finalement adopté par 49-3. Il y a une histoire d'ambulance et de charité, là. Le député des Bouches-du-Rhône a ensuite soupçonné la coalition gouvernementale d'avoir la volonté de dépasser les délais constitutionnels pour envisager de passer le budget par ordonnance et de contourner le vote de l'Assemblée nationale. Une des craintes des députés d'opposition est que les groupes soutenant le gouvernement Barnier laissent délibérément se prolonger les débats, afin d'entrer dans le champ de l'article 47 de la Constitution. Ce dernier dispose que si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Un 49-3 silencieux dénonçait fin octobre la députée Danielle Simonnet, qui fait partie des purgés d'ailleurs, elle siège au sein du groupe écolo. En réponse, Manuel Bompard a menacé le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement Barnier. S'il y a 49-3, LFI déposera une motion de censure, mais s'il n'y a pas 49-3, LFI déposera aussi une motion de censure, a-t-il prévenu, brandissant notamment l'article 49-2 de la Constitution. Évidemment, il peut déposer une motion de censure, il a le droit. Enfin, avec l'ouverture du procès Paty, ce lundi, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon a déploré une forme d'hystérisation du débat public autour de la question de la laïcité, notamment à l'école. Ce dernier prenant un travail d'explication auprès des réfractaires dans un climat apaisé. Là encore, Manuel Bompard adopte un discours assez éloigné de ses déclarations passées. En septembre 2023, lors des débats autour de l'interdiction de l'abaya à l'école, les députés insoumis fustigeaient une décision anti-laïque, sexiste et raciste. On sent l'ironie du Figaro. On sent l'ironie du Figaro qui souligne malicieusement que Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, dénonce désormais l'obstruction parlementaire. Sous-entendu, d'habitude, c'est pas le dernier. Et c'est vrai. Et c'est vrai que les députés macronistes et les députés LR ont déposé beaucoup d'amendements. Et ça, c'est le principe d'avoir un gouvernement faible. Et d'avoir un budget qui a été préparé à la va-vite aussi. L'obstruction de la majorité. Oui, l'obstruction du camp d'en face. L'obstruction parlementaire, c'est pas compliqué. Quand c'est fait par les mecs d'en face, c'est nul. Quand c'est fait par nous, c'est vachement bien. Voilà, grosso merdo. LFI égale poubelle, faut arrêter les conneries un moment. Ouais, faut doser aussi un peu, tranquille. T'es pas... tu as le droit d'avoir un désaccord avec un parti politique, c'est... Enfin, je veux dire, c'est possible. Après, c'est pas le même message si t'es au gouvernement ou si t'es dans l'opposition. Bah, c'est-à-dire que l'obstruction parlementaire, c'est une méthode parlementaire qui consiste à essayer de ralentir, voire d'empêcher un débat. Les députés macronistes et les députés LR, ils ne souhaitent pas ralentir le débat. Par contre, ils ont des trucs à modifier dans le projet de budget, ça c'est sûr. LFI, les seuls qui se battent vraiment pour le peuple. Absolument. De leur propre projet, de leur propre gouvernement. Mais ouais, mais oui, mais parce que, encore une fois, la majorité relative qui soutient le gouvernement Barnier n'est pas homogène. Pas du tout même. Ce qui veut dire que le budget qui est présenté par le gouvernement Barnier, il est contesté. Il est contesté. Il est critiqué par des députés du groupe majoritaire. Ajoute à ça le fait que quand même ce budget est un budget raide, compte tenu des 6% de déficit public et de la douche d'austérité que le gouvernement va faire passer, les députés, ils ont plein de choses à dire sur les impôts qu'il faudrait baisser, qu'il faudrait maintenir, les niches fiscales à abolir, etc. Que ce soit de la majorité ou de l'opposition. On est retourné dans un travail parlementaire, c'est ça que je veux dire. On est en train de voir la renaissance du parlementarisme avec un éclatement de l'Assemblée nationale en 11 groupes différents, dont seuls 4 soutiennent le gouvernement, mais ils ne sont pas d'accord entre eux, les 4. Donc, vous avez des amendements dans le budget. C'est logique. Ça ne m'étonne pas un quart de seconde. Et non, ce n'est pas de l'obstruction parlementaire. Je ne crois pas que ce soit de l'obstruction parlementaire. Je n'adhère pas à cette vision-là des choses. C'est juste du travail parlementaire classique avec des députés qui ont des choses à faire valoir dans ce budget. Dans l'interview, Bompard n'a même pas parlé d'obstruction parlementaire. Si. Si, Emmanuel Bompard dénonce la quantité d'amendements déposés par les députés macronistes. Il les accuse d'obstruction. J'ai l'impression que la Constitution n'a pas été écrite pour gérer la situation parlementaire actuelle. Ça pose pas un gros souci constitutionnel. La Constitution n'a pas été écrite pour la cohabitation. Ça a été une surprise en 86, hein. Personne s'y attendait. Et il y avait même des constitutionnalistes à l'époque qui disaient que c'était bientôt la fin de la Ve République, parce que la Constitution n'a pas été écrite pour la cohabitation. Bon, bah finalement, il y en a eu 3 des cohabitations et ça s'est bien passé. Si tu regardes les travaux préparatoires de Debré sur la rédaction de la Constitution de la Ve République, elle a été pensée pour des gouvernements minoritaires. D'où une grande partie des mesures de rationalisation du parlementarisme, les articles 40 et suivants, 40 et 49 surtout. Et pas seulement d'ailleurs, même l'article 34, l'article 37, sur les domaines de la loi et le domaine réglementaire, c'était aussi ça. Donc on verra la capacité et l'élasticité de notre constitution à permettre de fonctionner avec un gouvernement minoritaire. Mais vous remarquez, les amis, que tout ce que je suis en train de vous dire est valable aussi pour Lucie Castex si elle était première ministre. Je ne colorise pas particulièrement la critique parce que c'est des macronistes et les LR qui sont au pouvoir avec Michel Barnier. Tout ce que je suis en train de vous dire est valable si d'aventure, demain, Lucie Castex devenait première ministre. Elle serait première ministre minoritaire. Ça veut dire que son opposition pourrait être majoritaire. Et là, j'aimerais bien vous y voir sur l'article 40, d'ailleurs. On verra. La gauche est légitime à avoir le pouvoir car on est les gentils. Oui. Oui, c'est ça. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans un délai de 40 jours après le dépôt du projet, le gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Obstruction qui mène à une adoption. À une adoption par le Sénat. Donc il faudrait souhaiter que le Sénat prenne les bonnes décisions. Je suis pas sûr que les macronistes aient intérêt à ce que le Sénat prenne les décisions. Faut arrêter avec la 6ème République comme totem, on y met quoi demain? On y met quoi dedans? Tant qu'on n'aura pas répondu à ça. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est normal de défendre des évolutions institutionnelles et de souhaiter une 6ème République, même si je suis complètement d'accord avec toi, il s'agirait de commencer à dire ce qu'on y met dedans, cette 6ème République. Et c'est aussi un des trucs qui m'énerve avec la Constituante, c'est que c'est bien pratique pour ne pas répondre à la question. Commençons par réformer le mode de scrutin. Je suis d'accord avec toi. Commençons par nous engueuler sur le mode de scrutin pour savoir quel type de proportionnel on fait. Mais c'est un bon début, hein. Moi je suis d'accord, c'est un bon début. C'est essentiel dans une république de savoir comment on élit les députés. Mais après, il faut avoir une discussion sur qu'est-ce qu'on en fait de ces députés? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Est-ce que je vous avais déjà expliqué sur comment on écrit une constitution? Comment on fait? C'est quoi la méthode intellectuelle? Vous prenez une feuille, et en haut de la feuille, vous écrivez Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Non, mieux, Jean-Luc Mélenchon, président de la République. Ok? Vous écrivez ça. Donc ça, c'est une donnée. Ensuite, vous faites deux colonnes. La colonne de gauche, vous écrivez quels sont les pouvoirs du président de la République et de sa majorité. Parce qu'on va admettre que non seulement Jean-Luc Mélenchon a été élu président de la République, mais qu'en plus il a une majorité absolue de députés. Genre 300, 320, tu vois. Voilà. Donc vous écrivez tous leurs pouvoirs dans la colonne de gauche. Et dans la colonne de droite, vous écrivez tous les pouvoirs de l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition peut faire pour s'opposer à la politique menée par Jean-Luc Mélenchon? Donc vous imaginez le RN, vous imaginez les Républicains, vous imaginez les Macronistes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà, déposer des lois, des amendements, des machins, saisir le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et tout. Vous imaginez des trucs, machin. Et ensuite, et c'est là que le travail intellectuel commence, vous effacez le haut de la feuille où vous avez écrit Jean-Luc Mélenchon président, et vous écrivez Marine Le Pen présidente. Et là, vous relisez vos deux colonnes. Et vous vous demandez si ça vous convient. Voilà, il est là le travail intellectuel. C'est comme ça qu'on écrit une constitution. On réfléchit. Regardez, c'est exactement ce que je vous disais sur l'article 40. C'est exactement ce que je vous disais sur l'article 40. On passe un deal, on passe un accord tacite, un accord écrit, enfin pas un accord écrit justement, un accord oral, un truc qui est dans l'intérêt de tout le monde. Est-ce que j'ai intérêt, moi, quand je suis au pouvoir, d'empêcher l'opposition de faire quoi que ce soit? Sachant qu'il est possible que demain, je me retrouve dans l'opposition et que mon ancienne opposition devienne le pouvoir. Donc, quand vous êtes au pouvoir, vous avez plutôt intérêt à laisser l'opposition faire des trucs. Enfin, voilà, avoir la possibilité de déposer des projets de loi, mettre des niches parlementaires, avoir la présidence d'une des commissions à l'Assemblée nationale, saisir le Conseil constitutionnel. Voilà, plein de trucs. Et si on interdisait les politiques? Bah on serait obligé de t'interdire toi, parce que ce que tu viens de dire est politique. Quand même dommage. L'opposition a quoi comme pouvoir actuellement? Tu veux dire l'opposition parlementaire? Parce que l'opposition, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, l'opposition, elle a le pouvoir d'écrire des tracts, de coller des affiches, d'écrire des journaux, d'enregistrer des vidéos sur YouTube. Elle a le droit d'organiser des manifestations, elle a le droit d'organiser des rassemblements, elle a le droit de présenter des candidats aux élections. Prend la parole dans les médias, critiquer, dénoncer. Il faudrait une loi interdisant les politiciens de mentir. Et il y aurait un ministère de la vérité qui serait chargé de l'établissement de la vérité. Par exemple, si un politicien dit Dieu existe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on détermine le... On demande au Conseil d'État? Si un politicien dit une politique de rigueur, ça marche, qu'est-ce qu'on fait? On estime qu'il a raison, qu'il a tort, il a tort parce qu'on l'aime pas, on l'a tort parce qu'on n'est pas d'accord. Non, c'est compliqué, hein. Une technocratie, sinon? Ah bah ouais, une technocratie, oui. Une technocratie, le pouvoir aux experts, c'est ça la technocratie, hein, le pouvoir aux sachants, le pouvoir aux experts, pouvoir aux scientifiques. Ça me paraît être une super bonne idée, hein, de filer les clés du pouvoir à une bande d'ingénieurs. Sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous avez intérêt à vous acheter une paire de chaussures de marche parce que vous allez manifester beaucoup. Là, je vous rappelle qu'on a déjà un Mozart de la finance, à la présidence de la République. J'espère que vous êtes bluffés, hein, parce que c'est du haut niveau, hein. Jean-Michel Blanquer était probablement le plus gros technicien de l'histoire de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, il a été recteur, il a été DGESCO, il a été enseignant, il a tout fait. Enfin, voilà, c'est meilleur ministre de l'éducation nationale de l'histoire, d'un point de vue purement compétence. J'adore. Sublime. Ah ouais, non, vraiment. Donc ouais, non, moi la technocratie, ça a jamais vraiment été mon truc, je vous jure. Pas ouf. Ouais, non. Mais je reviens sur la question qu'on se posait tout à l'heure sur qu'est-ce qui est souhaitable en termes de, en termes de, d'institution. Moi, je suis pour qu'on ait le débat. Je suis pour que le débat soit ouvert, pour qu'on en discute effectivement du contenu. Parce que je suis d'accord avec le commentaire qui disait 6ème République, 6ème République tous les matins, c'est bon, ça va. Arrêtez de nous bassiner avec ça, dites-nous ce que vous voulez mettre dans cette 6ème République. Et c'est là que le débat devient intéressant. Une chambre législative tirée au sort. Moi, je me battrai toute ma vie contre, mais vous pouvez vous battre pour, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça aurait quoi comme impact le passage à une 6ème République? Bah, encore une fois. Ça dépend ce que tu mets dedans, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu mets dans ta 6ème République? Je sais pas, je peux pas répondre à ta question. Ça dépend ce qu'on met dans la 6ème République. Du fromage, du jambon. On veut de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. On supprime le 49-3 par un référendum citoyen qui dicte l'issue de la proposition de loi. C'est compliqué parce que le 49-3, c'est un outil qui a d'abord été pensé pour les lois budgétaires. Tu peux pas faire voter les Français en une semaine. Ça, c'est pas possible. Un référendum, je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait une campagne référendaire. Enfin, ça prend du temps, l'organisation du scrutin. Pourquoi être contre le tirage au sort? Je ne suis pas contre le tirage au sort. Je suis parfaitement favorable à l'utilisation du tirage au sort pour constituer des assemblées délibératives qui visent à élaborer un consensus citoyen, mesurer l'acceptabilité sociale et citoyenne d'une proposition. Bref, les conventions citoyennes, moi je suis un grand défenseur du modèle des conventions. Je suis un grand défenseur du tirage au sort pour les procès d'assises, pour les jurés. J'ai aucun problème avec ça. Je suis radicalement opposé au tirage au sort des députés ou des sénateurs qui sont les gens qui votent les lois. Donc qui prennent des décisions, qui sont comptables des décisions devant leurs électeurs. J'ai pas envie de jouer à pile ou face ou de laisser le sort décider des lois, en fait. Pourquoi? Parce que peut-être que pour toi, ça ne change rien, mais les femmes, ça change quelque chose qu'elles aient le droit à l'IVG ou pas, en fait. C'est une question de vie ou de mort pour des gens. C'est pas pile ou face si on est suffisamment nombreux. S'ils sont suffisamment nombreux. Mais peu importe, leur légitimité, ils la tirent d'où? Un député qui va poser son cul dans l'hémicycle, que vous l'aimiez ou non, qu'il vous plaise ou non, il est là par la volonté du peuple, comme disait Mirabeau. Et il est là par la volonté des électeurs, qui ont exprimé une volonté dans sa circonscription, et qui l'ont élu député. Un député tiré au sort, il... Il vient au nom de quoi? De la chance? C'est ça le critère? Il a été chanceux? Ah bah super. Et donc en ce titre-là, il va prendre la parole dans l'hémicycle? Alors moi je pense qu'il faudrait prendre un amendement pour dire... Non? C'est pour ça que je fais la différence entre les chambres qui ont un pouvoir législatif, qui ont un pouvoir de voter la loi, qui ont un pouvoir de prendre la décision, et les chambres qui ont vocation à éclairer la décision, à travailler sur le texte pour aboutir à des consensus. C'est en ça que je suis pour le tirage au sort de citoyens dans le cadre de conventions citoyennes. La convention citoyenne est là pour travail de rendre un rapport avec des propositions et des recommandations. Charge ensuite aux députés élus pour ça, de prendre la décision d'appliquer ou non les propositions. Mais c'est-à-dire que, enfin, une assemblée tirée au sort qui voterait une loi avec laquelle vous êtes en désaccord, mais vous serez tous dans la rue le lendemain matin. Je le sais. Évidemment. Vous contesterez la légitimité de la décision. Et vous auriez raison. Et bien sûr, vous auriez raison. Enfin, raison ou tort, d'ailleurs, peu importe, c'est votre droit. Vous avez le droit d'être en désaccord avec des décisions. D'ailleurs, je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit. Attention, oui, parce qu'il y a aussi un discours qui existe, qui consiste à dire « c'est la démocratie qui s'exprime et ne pas être d'accord avec l'expression « la démocratie, c'est antidémocratique ». Sous-entendu, par exemple, critiquer une loi qui a été votée par le Parlement, c'est putschiste, factieux et antidémocratique. C'est ne pas respecter le résultat des urnes que de contester la loi votée. Méfiez-vous quand vous entendez ça. Alors ça, c'est de l'esbrouf, c'est un mensonge éhonté, c'est contraire à l'esprit des institutions. Alors ça vaut pareil pour, vous critiquez les députés du RN, ça veut dire que vous méprisez les électeurs du RN. Si vous aviez du respect pour la démocratie, vous diriez du bien du Rassemblement National. Voilà, même arnaque, exactement la même arnaque. Ça vaut dans l'autre sens d'ailleurs, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Critiquer la France Insoumise, vous avez le droit, vous avez le pouvoir, il n'y a aucun problème. Non, ce n'est pas antidémocratique, non, vous ne crachez pas au visage du peuple. Non, non, vous avez le droit d'être en désaccord avec la France Insoumise. Voilà. Ça marche pour tous les groupes politiques. Méfiez-vous aussi de ce petit discours-là, qui est hyper dangereux, quoi. Pour une 6ème République, on pourrait renforcer la démocratie participative, moderniser la représentation politique, améliorer la transparence et la lutte contre la corruption, justice sociale et réduction des inégalités, renforcer les services publics. C'est génial parce que là, tu donnes que des éléments ultra flous qui ont impérativement besoin d'être précisés avant de pouvoir en discuter. Un programme politique, c'est toujours des promesses, c'est génial. Hein. Moi, j'adore hein. Les gens qui proposent une amélioration du niveau de vie. Ah ouais, oh, bah, super, ouais, je suis pour, ouais. Plus de sécurité. Super, non, carrément. Meilleure éducation, non, super. Mais concrètement, c'est quoi ta proposition ? C'est quoi ton projet de loi ? C'est quoi les règles que tu donnes ? C'est pas ça la politique ? Exactement, c'est précisément ça la politique. Donc voilà, quand on dit une démocratie plus représentative... Je suis giga partant. Let's go, ça part. Je suis chaud, on y va. Mais comment on fait ? Et c'est là qu'on va s'engueuler. C'est là qu'on va pas être d'accord. Sur la notion de représentativité, machin. Est-ce que... Tiens, par exemple, une loi qui a fait beaucoup gueuler à l'époque, c'est la loi sur la parité. Faut-il contraindre les partis politiques à présenter des femmes ? À l'époque, les gens qui étaient contre, ils avaient d'excellents arguments. Ils disaient que c'était antidémocratique, que c'est quoi cette manière de tordre le bras à la volonté des électeurs. Si les électeurs veulent pas élire une femme, c'est leur responsabilité en tant que souverain. C'est le peuple souverain qui décide, etc. Machin. Ça a gueulé très très fort à l'époque, hein, la loi sur la parité. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui a envie de revenir dessus. C'est quand même une bonne loi, la parité. On est tous d'accord pour dire qu'avoir une représentation de plus en plus paritaire des hommes et des femmes dans les cercles de pouvoir, et encore, on n'y est pas encore au résultat final... C'est quand même un progrès. Bon, et bah, discutons, continuons à débattre sur les quotas. Faut-il des quotas de jeunes ? Faut-il des quotas de pauvres ? Faut-il des quotas ? Faut-il forcer les partis politiques, tordre le bras des partis politiques pour les forcer à présenter... Ok, très bien. Et elle est où la limite dans cette manière de forcer les gens ? La place de l'éducation à l'esprit critique devrait être centrale en démocratie pour pouvoir débattre. Oui, complètement d'accord avec toi. Comment on fait ? Comment on fait ? Moi, je pense qu'il faut renforcer la liberté de la presse. Je pense qu'il faut garantir l'indépendance des médias, notamment de la presse écrite, empêcher les concentrations, par exemple, garantir le pluralisme dans l'audiovisuel. Renforcer l'éducation aux médias, dans le cadre de l'éducation nationale, mais également en dehors. Et encore, là, je viens de te donner des idées qui sont un peu floues, hein. Quand je dis « renforcer », ça veut dire quoi ? Ça aussi, c'est un truc un peu classique des politiques, ce qu'on appelle les incantations. Oui, il faut développer, machin, oui, oui. Il faut renforcer, oui, oui. Il faut sanctuariser, oui, oui. Très joli mot, mais concrètement, ça veut dire quoi ? C'est budgétaire, c'est réglementaire, c'est pratique, c'est quoi ? Et c'est là que le débat est intéressant, et c'est pour ça que les députés débattent sur des amendements. Parce que c'est dans l'amendement qu'est prévu le dispositif, précisément. Tu penses quoi de l'hypothèse d'un deal entre Macron et Le Pen pour le vote d'une destitution du président ? Pour le vote contre la destitution du président et du gouvernement Barnier, d'un côté la proportionnelle de l'autre. Non, il n'y a pas de deal entre Macron et Le Pen. Il n'y a pas de deal entre Macron et Le Pen, il y a des intérêts seulement. Marine Le Pen l'a très très bien exprimé, elle n'a pas besoin de passer un deal avec Macron. On va faire un grand débat pour en parler. Bah ouais, le grand débat national, c'était une bonne idée, moi j'ai trouvé. On était à un moment un peu particulier, dans une crise de la démocratie un peu spécifique avec le mouvement des Gilets jaunes. Et le gouvernement a mis en place tout un ensemble d'événements qui relevaient du grand débat national, qui avait vocation à permettre de donner naissance à des consensus, etc. C'est censé avoir imprégné l'ensemble de la politique du gouvernement. Pas sûr que ça ait fonctionné. Mais peu importe, l'exercice était intéressant. Les gens étaient invités à débattre. C'était Macron chaud. Non, tu confonds avec les débats dans lesquels Macron est allé. Là, évidemment, il y avait des caméras partout parce que Macron était là. Mais le grand débat national, c'était pas ça. Hein. Tu peux pas résumer le grand débat national au chaud d'Emmanuel Macron. Pourquoi c'est le bordel à l'Assemblée ? Est-ce que ça change de d'habitude ? Non. Déjà, c'est pas le bordel à l'Assemblée, et d'autre part, ça change pas de d'habitude. L'Assemblée, vous savez, c'est 200 ans d'histoire, autrement plus mouvementée que ce qu'on est en train de vivre. Comment être contre le tirage au sort quand on voit le cirque que nous offrent les politiciens de carrière ? Parce que tu crois que ce sera mieux ? Les citoyens tirés au sort ? Tu crois vraiment que ça va pas être le cirque ? Mais... Je défends pas l'idée que les politiciens sont mieux, hein. Mais leur dire qu'ils sont moins bien... Je me permettrai pas. On a un exemple avec la Convention citoyenne, ça s'est plutôt bien passé. Alors moi j'y étais, hein, je vous rappelle que j'étais partenaire de la Convention citoyenne, je faisais des streams en direct. Oui, ça s'est globalement bien passé, oui, heureusement qu'on fait pas le détail, parce qu'il y avait des gens quand même sacrément gratinés dans la Convention citoyenne. Il y avait un mec qui croyait pas au réchauffement climatique, par exemple, hein. Il y a un mec qui est arrivé le premier jour, il a pris la parole pour dire « le réchauffement climatique, ça n'existe pas, c'est l'éloignement des planètes par rapport au Soleil. » Bah, très bien. Puis finalement, au bout de plusieurs semaines de travail, et puis quand il a entendu les experts lui parler, il a fini par se dire « oui, peut-être que la vidéo YouTube que j'ai vue, elle est pas ouf, parce que quand t'as Valérie Masson-Delmotte, quand t'as Valérie Masson-Delmotte en face de toi qui te parle... En général, tu fermes ta gueule et tu prends des notes. Et effectivement, tu repars de là, tu ressors de là avec les idées un peu mieux en place. Et bah c'est très bien, le mec il a évolué. Il y avait un autre mec, je me souviens, au début, qui disait il faut abolir les voitures. C'était pas un mec, c'était une nana, pardon. Qui disait il faut abolir les voitures. Bon, bah, au bout de 3 mois de débat, elle disait plus ça. Elle disait non, oui, effectivement, je vois bien qu'il y a quand même des enjeux sociaux, géographiques, etc., derrière, qui sont un chouïa plus compliqués que. Et surtout que la baguette magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de mesure écologique qui, à elle toute seule, non, ça n'existe pas. Jean Massier qui est en fait pour un mélange de technocratie et de tirage au sort. Ni l'un ni l'autre. Non merci. Les gens qui veulent faire de l'écologie sans renoncer à leur confort. Bah ouais, mais tu sers surpris, hein. Il y avait une femme à la Convention citoyenne qui venait de Bretagne, je me souviens, qui était très très radicale, de gauche assez radicale, je crois que c'était une ancienne d'attaque. Et on parlait du transport aérien, on parlait des bateaux, enfin en gros on parlait des transports. Et elle disait, il faut supprimer les jets privés et les yachts de luxe. Et c'est la seule mesure qu'il faut prendre. Il faut s'en prendre aux riches, c'est eux qui polluent, etc. Et les climatologues lui expliquaient, lui répondaient, c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que ça suffira pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc... Les solutions un peu faciles, on s'en prend aux riches, comme ça, ça règle le problème. Non, non, non. Le problème des émissions de gaz à effet de serre dans le transport, c'est pas que les camions, c'est pas que les Ferrari, c'est pas que les yachts. C'est aussi les Peugeot 206. Par contre, s'en prendre à l'industrie... Bah, en fait, après, c'est ta manière à toi de faire de la politique. Hein. Il ne faut pas s'en prendre à qui que ce soit, en fait. Il faut embarquer tout le monde dans un changement qui implique une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en l'occurrence, les usines en France et en Europe sont beaucoup plus décarbonées que les usines en Chine. Mais si vous voulez fermer des usines, OK. Il faudra juste que vous alliez l'expliquer à Philippe Poutou. Pourquoi vous voulez fermer des usines? Vous aurez tous les communistes révolutionnaires contre vous, mais allez-y, hein, foncez, partez devant, je vous regarde. Hein. Soit 3 personnes. Ah non, non, mais vous n'êtes pas obligé de les écouter. Hein. Vous avez le droit de ne pas vouloir l'émancipation des ouvriers. Vous pouvez. Vous avez le droit de le penser, de le défendre, etc. Dire que les ouvriers polluent, qu'il faut qu'ils arrêtent d'aller travailler à l'usine. Vous pouvez le défendre. Il y a un camp qui s'appelle la gauche qui va être contre vous. Parce que ça fait à peu près un siècle et demi qu'ils défendent l'inverse. Mais vous pouvez aller contre la gauche, hein, y a aucun problème. Les commissions de l'Assemblée nationale consultent beaucoup ou peu des experts. Et pourquoi on entend parler des rapports enterrés parfois, juste parce qu'ils ne vont pas dans le sens du gouvernement? Je vois pas de quel rapport tu veux parler. Est-ce que les commissions consultent des experts? Oui, bien sûr. Dans le cadre de leurs travaux préparatoires, ils font des auditions. C'est conceptuel, ça, l'émancipation par le travail aliénant. C'est pas si conceptuel que ça, hein. Ça s'appelle le marxisme, c'est un truc qui existe depuis un petit bout de temps maintenant, c'est un matérialisme. Oui. Si t'en as jamais entendu parler, tu devrais faire des recherches, c'est assez intéressant. la Convention citoyenne reste un succès. Moi, je considère que la Convention citoyenne pour le climat a été un succès. Elle a fait son taf, la Convention. Les citoyens tirés au sort ont fait leur taf. J'y étais tous les jours, je l'ai discuté avec eux, j'ai vu comment ils travaillaient. Ils se sont pris à l'exercice, ils ont bossé, ils se sont formés, ils ont produit des propositions intéressantes. Et la suite ne relève pas de leur responsabilité. C'est pour ça que j'en ai marre qu'on dise que la Convention citoyenne n'a servi à rien sous prétexte que le gouvernement n'a rien fait de leurs propositions. C'était pas le rôle de la Convention que de faire quoi que ce soit avec leurs propositions. Eux, ils devaient faire des propositions. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont bien fait. Donc, voilà, la Convention citoyenne pour la fin de vie également, hein, elle a bien bossé. Je trouve que c'était intéressant les travaux qui ont été faits par les citoyens tirés au sort dans le cadre du travail sur la fin de vie. Une des critiques qui avait été adressée par les citoyens eux-mêmes d'ailleurs de la Convention citoyenne pour le climat, c'était que le problème de la Convention citoyenne pour le climat, c'est que son objet était trop large. On demandait aux citoyens tirés au sort de proposer des mesures pour améliorer la politique climatique. Et le problème, c'est que, en fait, il aurait fallu, en fait, réduire. Il aurait fallu dire transport, habitation, agriculture. Enfin, ou alors, j'en sais rien, mais bref, c'est vrai que c'était un peu trop large. Pour le coup, la Convention citoyenne pour la fin de vie, elle était plus simple, de facto, puisque la question de la fin de vie a le mérite d'être à peu près claire. On sait de quoi on parle, on sait de qui on parle. Et donc, je pense que c'est bien qu'on ait tiré les leçons de la première convention citoyenne pour en faire une deuxième mieux. Est-ce que sur la convention citoyenne, des politiques étaient associées ou du moins participaient? Je trouve la démarche intéressante car elle appelle à la compromission. Non, les citoyens tirés au sort étaient entre citoyens tirés au sort. Par contre, les citoyens tirés au sort, ils ont auditionné beaucoup de gens. Il y a eu des auditions, ils ont fait des auditions, ils ont invité des politiques à s'exprimer. Ils ont invité un ancien ministre, l'actuelle ministre qui était Barbara Pompili de l'écologie, l'ancien ministre Nicolas Hulot. Ils ont auditionné Yves Cochet, ils ont auditionné toutes les personnes qui les jugeaient importantes. Ils ont auditionné Jean-Marc Jancovici. Ils ont auditionné le patron de Total, le patron de la FNSEA, la Confédération Paysanne. Ils ont auditionné... ils ont posé plein de questions à plein de gens. Je me souviens, ils ont auditionné, c'était une audition passionnante, le président du directoire du groupe PSA, Peugeot Citroën. Comment il s'appelait, putain? Un très très grand industriel français, historique, machin... Audition, mais ils écoutent pas, ils ont déjà leur objectif. Qu'est-ce que tu racontes? Non, pas Carlos Tavares. Un Français. Louis Gallois. Louis Gallois qui était auditionné, je me souviens, par une des commissions de la Convention citoyenne pour le climat. Il y avait Priscilla Ludowski aussi, la gilet jaune, qui était là, je me souviens, dans l'audition. Et c'était absolument passionnant parce que Louis Gallois, il a quand même passé sa vie dans l'automobile, si tu veux. Il est totalement incollable sur les évolutions du marché, de machin, etc. Et il a fait un exposé absolument passionnant en expliquant aux citoyens tirés au sort que toute l'industrie automobile européenne était d'ores et déjà en train de muter. Était déjà en train de muter vers un modèle de neutralité carbone en 2050 qui avait déjà été décidé de toutes les façons. Et il expliquait d'ailleurs, il expliquait super bien ce que ça impliquait en termes de mutation industrielle sur le fait que tout un tas d'équipementiers vont disparaître simplement parce qu'il n'y a pas besoin de certains équipements dans les voitures électriques. En 2050, quand 100% des bagnoles neuves seront des voitures électriques, bah, il n'y aura plus de fabricants de boîtes automatiques ou de boîtes de vitesse tout court parce qu'il n'y a pas de boîtes de vitesse dans les voitures automatiques. En tout cas, ça ne marche tellement pas de la même manière que dans les voitures classiques. Et voilà, il parlait du châssis, de l'acier, il parlait des batteries, évidemment. Enfin, c'était super intéressant. Plus de bougies. Ah non, plus de bougies, les arbres à cames, tout ça. Villebrequin, tout ça. A plus. Donc mine de rien, et c'est ce qu'expliquait Louis Gallois, j'ai le souvenir de cette audition qui m'avait marqué, où il disait qu'en fait, l'industrie automobile européenne était en train de vivre la plus grande révolution industrielle qu'elle a connue depuis la création de l'automobile grand public dans les années 20-30, plutôt 40-50, et que c'était absolument stratosphérique pour l'ensemble des acteurs, et notamment que ça impliquait des prises de risques stratosphériques. Est vraiment stratosphérique. Quand c'est tiré au sort, c'est tous les citoyens majeurs ou juste les inscrits au vote? En fait, la Convention citoyenne pour le climat, le tirage au sort a été effectué par une entreprise spécialisée dans les enquêtes d'opinion et les sondages. Je ne sais plus qui c'était, c'était Harris, Ipsos, CSA, je ne sais jamais. Mais qui avait un cahier des charges obligatoire pour le tirage au sort. C'était Harris. Ils avaient un cahier des charges obligatoire, et notamment le tirage au sort devait refléter 8 critères de représentativité de la population française. Il n'y avait pas Cohn-Bendit qui avait été tiré au sort, si. Daniel Cohn-Bendit avait été tiré au sort. Enfin, il avait été appelé au téléphone et il avait décliné la proposition. Mais son numéro de téléphone avait été tiré au sort, effectivement. Et donc, les 8 critères de représentativité, c'était pour permettre que la Convention citoyenne, qui, je rappelle, était constituée de 300 citoyens, soit la plus représentative possible de la population française. Donc par exemple, il devait y avoir 51% de femmes et 49% d'hommes. Il devait y avoir un nombre précis de personnes entre 60 et 70, entre 70 et 80, entre machin et machin. Bref, les âges. La représentation territoriale aussi entre les personnes de zone rurale et les personnes de zone urbaine et périurbaine. Ça avait été précisé. Il y avait aussi un panachage en termes de niveau de diplôme. Il fallait que ça représente la France en termes de niveau de diplôme. Donc pas que des bacs plus 5, pas non plus que des personnes en formation professionnelle. Et donc voilà, bref, il y avait 8 critères comme ça, qui faisaient qu'à la fin, les 300 citoyens tirés au sort, c'était une photographie de la population française. En tout cas sur ces 8 critères-là. Qui fixe les critères ? Les critères ont été fixés par la Convention citoyenne, par le comité de pilotage de la Convention citoyenne. Et ça te prend combien de temps ces conventions ? À moi, rien du tout. Moi, j'ai pas été tiré au sort. La première convention, la Convention citoyenne pour le climat, j'ai signé un partenariat avec eux pour faire des émissions sur Twitch en direct pendant les week-ends de séances plénières. Ah, peut-être qu'ils s'en souviennent, mais à l'époque, sur Twitch, en direct, je faisais des interviews et des commentaires en direct des séances plénières de la Convention citoyenne. Il y avait une part d'étudiants ou juste des actifs? Non, il y avait des étudiants, il y avait même des jeunes de 15-16 ans, je crois. Je crois que ça commençait à 15 ou 16 ans. il y avait une volonté d'avoir une représentation des étudiants, des jeunes et des personnes sans diplôme. C'est quoi le bilan de la Convention citoyenne au final? Bah, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la Convention citoyenne pour le climat a bien travaillé et a fait son job. C'était la première fois qu'on avait ça en France. Ils ont essuyé les plâtres d'un modèle qu'on ne connaissait pas. Ils se sont formés. Les trois premières séances plénières de la Convention citoyenne pour le climat, c'était que de la formation. Mais vraiment que de la formation. Les citoyens posaient quelques questions, mais ils affirmaient rien, ils proposaient rien, c'était vraiment prise de notes. T'avais des climatologues qui venaient, qui leur faisaient des PowerPoints, t'avais des juristes. Je me souviens, il y avait un haut fonctionnaire du Conseil d'État qui était venu faire une formation aux citoyens sur qu'est-ce que peut faire un État quand il agit politiquement. Et vraiment, c'était une formation basique de haut fonctionnaire sur interdire, proposer, réglementer, contraindre, autorisés, etc. Il leur avait fait tout un panel comme ça de voilà ce que peut faire un État dès lors qu'il veut prendre des législations. C'était super intéressant. Voilà. Et ça a pris trois séances plénières, donc trois week-ends successifs pendant lesquels les citoyens n'ont rien fait que être formés aux problématiques du climat, etc., etc. Et à partir de là, ils ont travaillé en commission pour élaborer des propositions et ensuite ils les ont débattues pour finalement les adopter dans un rapport final avec toutes les propositions de la Convention citoyenne. Ces formations et les intervenants ont été choisis par qui? Par le comité de pilotage de la Convention citoyenne dans lequel siégeaient les citoyens. Et ensuite, quand les citoyens travaillaient en commission, ils pouvaient décider d'auditionner quelqu'un pour parler spécifiquement de leur sujet. Ça aboutit à quoi concrètement au final? Pas grand-chose, pour être honnête. Ça relève pas de la responsabilité de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, elle fait son taf. Après, que l'Assemblée nationale française se saisisse de son taf ou pas, ça ne regarde pas la Convention. Malheureusement, c'est pas son boulot. Et par ailleurs, il y a eu la loi climat qui a été votée, la loi climat résilience, qui a repris une partie des propositions de la Convention citoyenne. Ça a été critiqué par une partie des acteurs écologistes, notamment des ONG, qui trouvaient que la loi n'allait pas aussi loin que la Convention citoyenne. Les citoyens ont fait le taf, faut lire les rapports pour se rendre compte, mais vraiment, ils n'ont pas fait semblant, c'est un travail remarquable. Je suis d'accord avec toi, le rapport de la Convention citoyenne pour le climat est un très bon rapport. Enfin, je trouve ça très intéressant, ce qu'il y a écrit dedans. Néanmoins, je trouve que les propositions qu'ils ont faites étaient assez peu précises. Je leur en veux pas, parce que je considère qu'ils n'avaient pas le temps, ni probablement les moyens, d'élaborer des propositions plus précises, plus contextuelles, etc. Mais malheureusement... Si tu veux, il y avait certaines recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, c'était il faut renforcer truc, il faut développer machin. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, ce genre de tarte à la crème en politique, bah, c'est un peu le diable se cache dans les détails en fait. Donc si la recommandation c'est il faut renforcer les énergies renouvelables, bah, en fait, tu laisses une large marge d'appréciation au gouvernement et au Parlement pour l'adopter à sa sauce. C'est marrant parce que pour le coup, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Quand il était venu s'exprimer devant la Convention citoyenne pour le climat, il avait dit aux citoyens, c'était au début, il leur avait dit « Plus les propositions que vous me ferez seront précises, plus ce sera difficile de vous embobiner et de pas les appliquer. Et en vrai, je pense qu'il avait raison de dire ça. Enfin, je sais pas s'il avait raison, je sais pas si c'était dans son intérêt de le dire. mais oui, effectivement. Si les recommandations que tu fais sont générales et abstraites, bon bah ça devient facile de trouver des justifications pour les appliquer ou pas, quoi. Le CSC est incroyable. Ah non, c'est pas du tout un CSC, c'est l'inverse. Il avait parfaitement raison. Les citoyens ont fait des propositions non précises. Un peu vagues. Les conventions ont le droit de convoquer n'importe quel expert ou politique pour les auditionner? Non, ils n'ont pas le pouvoir de convoquer qui que ce soit. Hein. Ce n'est pas des commissions d'enquête parlementaire. Mais ils peuvent inviter des gens à venir leur répondre. C'était pas facile de dire ça, c'était certain que ça serait pas assez précis, il a joué sur ça. Bah, s'il a joué sur ça, pourquoi il leur a dit de pas le faire? Est-ce que les propositions avaient été budgétisées? Je crois pas, non. Je crois que c'était pas dans le mandat de la convention de budgétiser les propositions. Je crois pas. Non. Mais en plus, enfin, bon, y a un débat sur les reprises des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Hein. Je veux dire, il y a des gens et des ONG qui disent que le gouvernement... Alors évidemment, on en fait toujours des caisses, donc on dit Emmanuel Macron n'a rien repris, zéro proposition de la Convention citoyenne n'a été reprise, c'est un scandale, etc. Et puis de l'autre côté, moi je me souviens très très bien de Barbara Pompili, qui expliquait à quel point toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat avaient été reprises dans sa loi Climat Résilience. C'est une question de point de vue, sans doute. Les propositions ne sont en tout cas pas périmées. Non, effectivement, et je me souviens que dans le cadre du débat justement parlementaire de la loi Climat Résilience, les députés avaient repris les propositions de la Convention citoyenne et les avaient passées sous forme d'amendements. Mais je me souviens... Je me souviens que les relations entre l'opposition de gauche à Emmanuel Macron et la Convention citoyenne n'ont pas été au beau fixe au début, quoi. Quand la Convention citoyenne a été créée, il y avait, je me souviens, des députés de gauche qui tapaient à bras raccourcis sur la Convention. En disant que c'était un machin, que c'était une opération de com' de la part de Macron. Et je me souviens même de députés dont je tairais le nom, qui commençaient à expliquer dans les interviews que les citoyens tirés au sort seront tirés au sort parmi les adhérents d'En Marche. Ça se voit, c'est gros comme une maison, c'est une opération de bullshit organisé par l'Élysée pour contourner le Parlement, etc. Enfin, vraiment, les députés de gauche, ils tapaient. Puis la Convention citoyenne s'est réunie. Les journalistes ont écrit les premiers articles pour expliquer comment ça se passait. Et là, tous les députés de gauche, ils ont fait « Ah !» Et apparemment, il y a des consignes qui ont été passées en interne sur les boucles WhatsApp pour dire « On arrête de taper sur la Convention citoyenne. On tape plus dessus. Non, on tape plus dessus parce qu'en fait, Apparemment, hein. Bah, c'est assez intéressant ce qui se passe. Donc là, l'élément de langage pendant 6 mois, ça a été « je ne juge pas, on verra le rendu final ». Et là, quand le rendu final est sorti, tous les députés de gauche, ils ont fait « extraordinaire convention citoyenne, formidable exercice démocratique, quelle belle expression de la vitalité de nos citoyens ». Les propositions sont parfaites, elles sont splendides. Écoutez, valait mieux que ça plutôt que... Voilà. Valait mieux que ça plutôt qu'autre chose. Et d'ailleurs, je me souviens de députés de droite cette fois-ci. Qui eux s'en foutaient globalement, hein. Du début à la fin, ils étaient sceptiques de toute façon dès le début de l'exercice. Bon, ils ont le droit, hein, y a pas de problème. Tirage au sort, tout ça, ouais, bon. On verra bien. Et à la fin, quand les propositions de la Convention citoyenne sont sorties, les députés de droite, ils disaient non mais c'est de la démagogie. Les citoyens tirés au sort n'ont aucune responsabilité budgétaire. Donc ils peuvent se permettre de proposer comme ça gratos des trucs. Sans à aucun moment faire d'études d'impact sur combien ça va coûter réellement et à qui. C'est pas de la bullshitterie, c'est un exercice de... Et eux, ils disaient, leur critique, qui n'est pas une mauvaise critique, hein. À mon avis, c'est une critique à entendre, qui n'est pas une mauvaise idée, de dire on peut pas demander à un citoyen de faire des propositions comme ça sur un sujet sans tenir compte du reste des autres sujets qui sont tous interconnectés. Et c'est pour ça qu'on a un Parlement, c'est pour ça qu'on vote un budget. C'est parce que tout est lié, en fait. Tu ne peux pas faire des propositions sur le climat sans que ça ait un impact sur l'agriculture, sans que ça ait un impact sur l'urbanisme, sur le logement, sur le pouvoir d'achat, sur les transports, sur le travail, etc. Donc... c'était pas faux en même temps, si tu chiffres rien, tu peux proposer n'importe quoi. C'est une question que je trouve intéressante sur quels sont les critères de réussite que tu t'accordes. Et c'est une question quasi philosophique, hein, sur c'est quoi la mesure du succès de la loi. Et si effectivement tu ne mets que comme mesure du succès la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça peut parfois coûter un prix bien trop important. Exemple, par exemple, hein, moi je dis un exemple comme ça, mais si on crée une taxe carbone sur le carburant, je sais pas, ça pourrait être une bonne idée. Ce serait une formule incitative pour la réduction de la consommation de carburant. Bon. Eh ben, cette idée, elle est bonne sur le papier. En vrai, cette idée, elle est bonne sur le papier. Elle a été votée, je vous rappelle, cette idée. Elle a été votée dans la loi... je ne sais pas si c'est Ségolène Royal qui l'avait descendue ou quelqu'un d'autre pendant le gouvernement Hollande, mais elle avait été votée. Et puis quand elle a été mise en place, bah, les Gilets jaunes sont venus dire et montrer que sous couvert d'une bonne idée de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette loi était injuste socialement. C'était pas les bonnets rouges, c'était les gilets jaunes. Les bonnets rouges, c'était l'écotaxe, notamment en Bretagne. Donc, il a baissé les APL de 5 euros dans le même temps. Ça n'a absolument rien à voir avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est que si tu veux réduire les émissions de gaz à effet de serre sans regarder aux conséquences, ça donne les gilets jaunes. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu l'idée quand même. C'est comme, je sais pas moi, si tu veux augmenter le pouvoir d'achat en rapprochant le salaire brut du salaire net, bon bah tu réduis les cotisations sociales, ça donne plus de pouvoir d'achat aux gens, c'est super, augmentation du pouvoir d'achat immédiat. Par contre, ça crée un manque de financement pour les caisses de sécurité sociale. Donc tu crées des externalités négatives à la loi que tu votes. Pas d'écologie sans lutte des classes, vous jardinez sinon. C'est d'une originalité. Tu l'as trouvé tout seul ? Quoi de nouveau ce lundi ? Pas grand chose. Pas grand-chose. Écoute, on a lu un article sur les tractations sur l'abrogation de la réforme des retraites qui est un peu un mal de crâne. Michel Barnier a annoncé qu'il allait... Bernard Cazeneuve a annoncé qu'il allait proposer un projet aux Français au début de l'été prochain. Sachant qu'il y aura très probablement des élections au début de l'été prochain. Qui va gagner les élections US, vous l'apprendrez demain en direct en regardant Backseat de 21h à 4h du matin. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit d'aller dormir quand vous regardez ce stream. C'est obligatoire, c'est prévu, ça a été vu et revu. J'en profite pour vous présenter qui seront les invités de cette émission Backseat spéciale élection américaine. On va les passer un peu rapidement. Swann Périssé, humoriste. Mathieu Gallard, le directeur d'études de chez Ipsos, qui est enseignant à Sciences Po également. Julien Volpré, qui est entrepreneur, et c'est l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy sur les questions d'opinion. On a David Collomb, qui est historien, enseignant-chercheur à Sciences Po. On a Elsa Vidal, qui est rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. C'est avec elle notamment qu'on va aborder les questions de relations avec Poutine des États-Unis et de Donald Trump en particulier. ASMR Politics, qui sera avec nous sur le plateau. Je suis très heureux qu'il ait accepté de venir sur le plateau de Backseat pour parler de ces élections américaines. On sera aussi avec Antoine Vidkin, qui est journaliste et documentariste. Mathieu Persan, graphiste et illustrateur pour Le 1 et le journal America. Philippe Collin, l'immense Philippe Collin, auteur, scénariste, producteur de France Inter, pour Futuropolis également et pour Arte. Philippe Collin qui a fait les séries de portraits sur France Inter en podcast. On en a déjà longuement parlé. Sébastien Marx, humoriste, qui sera également avec nous. Et attention, c'est pas fini. Deuxième salve, on sera avec Mama Paprika, qui est créatrice de contenu. Mama Paprika, la streameuse, qui va organiser un jeu autour de GeoGuessr sur le plateau. Vous allez voir, ça va être génial. Leslie Couteran, activiste et documentariste. Ludivine Guilly, qui est historienne, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord pour la Fondation Jean Jaurès, avec qui nous sommes en partenariat pour cette émission. Julien Bisson, qui est rédacteur en chef du journal Le 1 Hebdo, avec qui nous sommes en partenariat pour cette émission. Vincent Manilève, l'excellentissime journaliste et chroniqueur de Backseat, correspondant aux États-Unis. Il sera sur place. Ainsi qu'Alexis Buisson, journaliste correspondant aux États-Unis. Amélie Ferret, docteur en sciences politiques, responsable du laboratoire sur la défense de l'IFRI. On a des enjeux géopolitiques à aborder avec Amélie Ferret. Je suis très content qu'elle ait accepté de venir. Marie Terrier, journaliste au HuffPost, correspondante aux États-Unis. Elle sera sur place. Robin Legrand, journaliste politique à l'AFP, correspondant aux États-Unis. Lumière Laprès, qui est activiste, consultante, autrice, correspondante aux États-Unis également. Voilà l'intégralité. Et non, ce n'est pas l'intégralité. Il y a encore des surprises. Vous serez avec Malek Délégué, vous serez avec Adèle Barbeur, vous serez avec Léa Chamboncel et avec Sacha Beckerman qui seront également en plateau avec nous. Ça va être le feu. On pourra regarder sur ta chaîne Twitch. Oui, ce sera intégralement sur ma chaîne Twitch. Gratuit pour tout le monde. Mais si vous vous abonnez, c'est mieux. Et de 21h à 4h du matin, moi, je présenterai l'émission de 21h à minuit. Puis à minuit, je serai remplacé par Adèle Barbers, qui va animer la suite de l'émission. Hmm. plein de super invités. Mais oui, il y a plein d'invités trop cool. Je suis trop content qu'ils aient accepté de venir. On va faire des interviews, on va faire des décrochages en correspondance sur place. On va faire des jeux. Mais tu restes quand même. Oui, je reste un peu, mais je peux pas rester jusqu'au bout, moi. Parce que je vous rappelle que le lendemain, le samedi à 16h, le mercredi à 16h, nouvelle émission exceptionnelle sur ma chaîne. Je vous invite vraiment à venir la regarder, celle-là. C'est une émission sur la recherche contre le cancer. Je vais interviewer des chercheurs et des chercheuses spécialisés dans la lutte contre le cancer pour répondre à toutes vos questions sur le sujet. Moi, je vous avoue que j'y connais pas grand-chose au cancer. J'ai besoin de me remettre à jour. Donc voilà. Les résultats des élections tomberont à quelle heure? Les résultats des précédentes élections américaines sont tombés entre 2h30 et 3h30 du matin. Il est possible que cette élection soit contestée et que les résultats mettent du temps à tomber. C'est possible. C'est possible même que les résultats mettent plusieurs jours à tomber. Ça, on n'y peut rien. Donc nous, on fait une émission qui va jusqu'à 4h du mat. Ça devrait nous permettre de couvrir la durée, mais c'est pas sûr. On fait ce qu'on peut. On va au bout de ce qu'on peut faire. Et après, le reste appartient à l'histoire. Ton émission commence à quelle heure? Elle commence à 21h. Elle commence à 21h. Donc soyez là, ça va être cool. Passez une bonne soirée avec nous. Laissez-nous sur la télé pendant que vous faites autre chose si vous voulez. Mais on va passer un bout de la nuit ensemble. Ça va être cool. C'est grave si on arrive à 22h. Ah oui, je préviens d'ailleurs que les places sur place, on est complet. Mais... Donc il y a 1200 personnes hein, qui seront dans le public. Hein. Non mais c'est une grosse émission demain. Hein. Il y aura 1200 personnes dans le public. Je vous rappelle que à partir de 23h, si vous n'êtes pas inscrit et que vous voulez venir, vous pourrez venir. En gros, on ouvre les portes à 23h. Avant 23h, c'est surinscription obligatoirement. Après 23h, c'est open. Voilà. Est-ce qu'elle sera en rediff? Tout est en rediff. Toute ma chaîne, toujours. Il y a une liste des invités inscrites quelque part. Ouais, sur le compte Instagram de Backseat. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un groupe WhatsApp Backseat qui existe. Hein. Je vous invite à rejoindre le groupe WhatsApp de Backseat. Promis, on vous spamme pas trop, mais c'est le meilleur moyen d'avoir des infos, notamment sur qui sont les invités, les chroniqueurs, etc. Vous savez les informations que vous me posez tout le temps. Et ben, sur le groupe WhatsApp, vous l'aurez en temps et en heure. Donc rejoignez le groupe Backseat. Point d'exclamation WhatsApp dans le chat. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre. Et normalement, on aura à l'image une évolution des résultats de l'élection. Donc vous pourrez suivre sur l'image, en direct, les grands électeurs. Vous savez, au fur et à mesure qu'on a les résultats du nombre de grands électeurs, vous pourrez le suivre, ce sera incrusté dans l'image. Ça fait plaisir d'avoir un show plutôt qu'une élection en live sur France Info. Oh, on fait des bisous aux copains de France Info, quand même. Même si c'est vrai, on va faire une meilleure émission qu'eux, mais on les embrasse, c'est des potes. Donc ouais, non, ça va vraiment être le feu demain. Ça va vraiment être le feu, on va bien rigoler. On a quand même des invités exceptionnels avec lesquels on a beaucoup de choses à se dire sur beaucoup de sujets. Non, ça va être cool. Ça va être très très cool. Je vais m'arrêter là, les amis. En vous faisant des bisous, en vous remerciant d'être venus. On se retrouve demain à 21h. Ça va être cool. Du coup, je reprécise, hein, pas de QAG, ni demain ni mercredi. Émission spéciale cette semaine. Mardi 21h, élection américaine. Mercredi 16h, émission spéciale sur la recherche contre le cancer. Notez tout ça dans vos agendas, je serai content de vous y retrouver. Merci d'avoir été là aujourd'hui, c'était chouette. Merci à tous les abonnés qui ont sub et resub, ça fait zizir. Je vais m'occuper de mon bitzi. Il me reste plus qu'à vous faire des bisous, passer une bonne soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Salut tout le monde, au revoir.